VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 9 juillet 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Le Ghana, cédant à la pression populaire, renonce à consacrer 200 millions de dollars à la construction d'un nouveau parlement.
L'ex-chef de guerre congolais, Bosco Ntaganda, a été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité par la CPI.
L'Iran augmente son degré d'enrichissement de l'uranium et lance une mise en garde à l'Europe.
La chef du gouvernement pro-Pékin de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré que le projet de loi sur les extraditions est mort.
Et en sport, ne manquez pas les dernières nouvelles de la Coupe d'Afrique des Nations.
Pour l'instant, le journal.
Au Ghana, la mobilisation populaire a eu raison d'un projet des autorités de doter le Parlement d'un nouveau siège qui aurait coûté 200 millions de dollars. Les précisions de Lionel Gaïma.
La campagne Drop That Chamber, renoncer à cette chambre, a mobilisé sur les réseaux sociaux des milliers de Ghanéens hostiles au projet. Une manifestation populaire était prévue samedi à travers le pays. Cette colère populaire a contraint les autorités ghanéennes à jeter l'éponge. Nous sommes une institution à l'écoute et après avoir évalué les opinions des gens, nous avons décidé de renoncer à l'idée, a déclaré Kate Addo, directrice par intérim des affaires publiques du Parlement. Les autorités ghanéennes avaient estimé qu'un nouveau Parlement pouvant accueillir jusqu'à 450 députés était nécessaire pour remplacer le siège actuel de 275 places. Le financement des travaux allait être assuré par un prêt de l'Inde. À l'appui de ce projet, la constitution ghanéenne qui prévoit d'augmenter tous les 10 ans le nombre de circonscriptions pour tenir compte de la croissance démographique. Le Parlement n'a pas besoin d'un nouveau siège, a fait savoir la société civile ghanéenne qui maintient la marche de samedi tant que les législateurs n'auront pas pris une résolution officielle annonçant l'abandon du projet.
La Cour pénale internationale a reconnu coupable hier l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des massacres de civils et des viols de jeunes filles enrôlées comme enfants soldats en République démocratique du Congo. Surnommé Terminator, Ntaganda, aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué un rôle déterminant dans les atrocités commises en 2002 et 2003 en Ituri, dans le nord-est du pays, ont estimé les juges de la Cour. Nous reviendrons sur la condamnation de Bosco Ntaganda en seconde partie de cette édition.
5 personnes, 3 civils et 2 policiers ont été tués hier en Somalie dans une fusillade qui a éclaté lorsque des membres du groupe islamiste radical des Chebab ont ouvert le feu sur un checkpoint à Mogadiscio. Les 2 assaillants ont été abattus selon un responsable des forces de sécurité. Peu de temps auparavant, dans le même quartier, les policiers avaient intercepté une voiture remplie d'explosifs qu'ils ont ensuite fait exploser. Un témoin a dit à l'AFP que les assaillants portaient des uniformes de l'armée somalienne, ce qui leur a permis de s'approcher du checkpoint sans éveiller les soupçons.
En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a annoncé hier l'envoi prochain de 50 000 travailleurs aux Émirats arabes unis. C'est dans le cadre d'un programme visant, a-t-il dit, à moderniser la main-d'œuvre éthiopienne. Eric Manirakidza.
Devant le Parlement, le Premier ministre a expliqué que des discussions sont en cours pour l'envoi de 200 000 travailleurs sur 3 ans. Abiy Ahmed a précisé que cette décision répond au programme à court terme pour réduire le chômage dans le pays. Les Éthiopiens ainsi envoyés gagneront de meilleurs salaires et pourront parfaire leurs compétences, a assuré le Premier ministre. Ce programme concerne des métiers tels que les infirmiers ou les chauffeurs. Des discussions similaires sont également en cours avec des pays européens non spécifiés et le Japon, a précisé M. Abiy. Pour lui, l'économie éthiopienne sera soutenue par 2 jeunes travailleurs qualifiés formés à l'étranger. En juin 2018, l'Éthiopie avait annoncé que les Émirats s'étaient engagés à injecter 3 milliards de dollars dans l'économie éthiopienne, notamment sous forme d'investissement. Désireux de se rapprocher des pays de la Corne et de l'Afrique, les Émirats ont joué un rôle de médiateur avec l'Arabie saoudite dans l'accord de paix conclu à la mi-2018 entre l'Éthiopie et l'Érythrée.
Les migrants sont des personnes humaines, le symbole de tous les exclus de la société globalisée, a plaidé hier le pape François, qui présidait une messe en la basilique Saint-Pierre, marquant le 6e anniversaire de sa visite sur l'île de Lampedusa. En présence de seulement 250 invités, migrants et secouristes, il a souligné dans une homélie que les plus faibles et les plus vulnérables doivent être aidés. Le 8 juillet 2013, 4 mois après son élection, mais avant les vagues d'arrivées massives et les grands naufrages des années 2013-2017, le pape François s'était déplacé sur la petite île italienne située entre la Libye et la Sicile pour dénoncer la mondialisation de l'indifférence envers les migrants.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Iran a annoncé hier produire de l'uranium enrichi à au moins 4,5% au-delà de la limite autorisée par l'accord nucléaire conclu à Vienne en 2015. Téhéran a également mis en garde les Européens contre toute réaction susceptible d'envenimer la situation. Le point avec Jean-Roger Bion.
L'Agence internationale de l'énergie atomique a de son côté confirmé que l'Iran avait commencé à enrichir de l'uranium à un degré supérieur à celui autorisé par l'accord. Pour sa part, l'Union européenne a appelé l'Iran à cesser et à revenir sur ses activités qui sont contraires aux engagements pris dans le cadre de l'accord, soulignant qu'elle était très préoccupée. Le président américain Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec son homologue français Emmanuel Macron, qui dépêche à Téhéran son conseiller diplomatique pour œuvrer à une désescalade. Lundi, le porte-parole des affaires étrangères Abbas Mousavi a adressé une mise en garde à Paris, Londres et Berlin. Si ces trois capitales devaient se comporter de manière inattendue, alors nous souterions toutes les étapes suivantes du plan de réduction des engagements annoncé en mai et nous mettrions en œuvre la dernière, a-t-il dit, sans préciser la nature de cette ultime étape.
Le président américain Donald Trump s'en est pris hier à la première ministre britannique, Theresa May, au sujet du soutien qu'elle a apporté à son ambassadeur à Washington après la publication de câbles diplomatiques. Dans ses documents, l'ambassadeur Kim Darroch met en cause les capacités du dirigeant du locataire de la Maison-Blanche. Précision de Jacques Aristide.
Le Royaume-Uni indique avoir exprimé ses regrets au gouvernement américain après la fuite de ses câbles diplomatiques dans lesquels le diplomate anglais juge l'administration américaine inepte et dysfonctionnelle. Kim Darroch a notamment écrit que le locataire de la Maison-Blanche était instable et incompétent. Le président Trump a lui déclaré qu'il n'aurait plus de contact avec le diplomate. « Je ne connais pas l'ambassadeur, mais il n'est ni aimé ni bien vu aux États-Unis », a écrit M. Trump. Il s'est dit très critique de la façon dont le Royaume-Uni est la première ministre Theresa May ont géré le Brexit, la jugeant responsable de la pagaille actuelle, dit-il, avant de se réjouir de la nomination bientôt d'un nouveau premier ministre. Madame May a condamné les fuites qu'elle a qualifiées de totalement inacceptables, mais a également souligné avoir une totale confiance en Kim Darroch, arrivé à Washington en janvier 2016, avant la victoire de Donald Trump à la présidentielle américaine. Londres espère conclure un accord commercial avec Washington après son départ de l'Union européenne le 31 octobre prochain.
La chef du gouvernement pro-Pékin de Hong Kong, Carrie Lam, a déclaré mardi que le projet de loi sur les extraditions vers la Chine, qui a provoqué une vague historique de contestation, était, je cite, « mort ». Elle se refuse toutefois à annoncer le retrait immédiat du texte, comme le réclament les protestataires. Depuis des semaines, l'ancienne colonie britannique est plongée dans une crise politique profonde, déclenché par le rejet du texte avec des manifestations pacifiques monstres, mais aussi des affrontements violents entre policiers et une minorité plus radicale.
Ici aux États-Unis, le financier américain Jeffrey Epstein a été inculpé hier à New York d'exploitation sexuelle de dizaines de mineurs. Ce riche investisseur en fonds spéculatifs serait, dit-on, proche de célébrités, du président américain Donald Trump, de l'ex-président Bill Clinton, ainsi que du prince Andrew de Grande-Bretagne. Monsieur Epstein, qui a plaidé non coupable, risque jusqu'à 45 ans de prison. Il avait déjà été accusé en Floride il y a plus de 10 ans de similaire, mais grâce à un accord passé alors avec le procureur fédéral Alexander Acosta, aujourd'hui ministre du Travail, M. Epstein avait obtenu de ne pas être poursuivi par la justice fédérale. Fin de ce journal sur VOA Afrique, place maintenant au journal de la CAN, présenté par Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Il n'y a pas de match aujourd'hui. Les quarts de finale commencent demain et le tableau affiche désormais complet. Les rencontres de ces quarts débutent avec un duel ouest-africain Sénégal-Bénin. À 16h, temps universel et à 19h, les bourreaux sud-africains du pays hôte feront face au Nigeria, vainqueur du tenant du titre. Jeudi, la Côte d'Ivoire jouera l'équipe en forme de cette CAN, l'Algérie, et Madagascar fera face à la Tunisie. Hier, les éléphants de Côte d'Ivoire ont battu le Mali 1-0 en 8e de finale à Suez. Ils ont peiné pour écarter les aigles maliens auteurs d'une belle phase de poule. L'essentiel est fait pour les Ivoiriens.
On se devait de pas passer à côté de ce match-là, de ne pas avoir de regrets, parce qu'on on savait qu'il y avait la place. Il manquait juste des petits réglages à faire, c'est ce qu'on s'est dit. On ne s'est pas manqué de respect ou quoi, non, on s'est dit les vérités. Des fois, ça fait du bien et je pense que parfois, ce groupe-là en a besoin. Donc voilà, et on est très satisfait de ce qu'on a pu faire.
Serge Aurier, défenseur de la Côte d'Ivoire. Dominateur en première période, les Maliens ont été solides jusqu'à la 76e minute et le but du milieu offensif Wilfried Zaha, son deuxième dans la compétition. Les Maliens ont payé cash une erreur défensive alors qu'ils avaient le jeu à leur compte, selon leur sélectionneur Mohamed Magasouba.
On a manqué de ce qu'on appelle la grande tâche, c'est-à-dire le petit détail nous a manqué. Imaginez qu'on avait le match de bout en bout, on a dominé notre sujet, on a maîtrisé notre sujet, mais nous n'avons pas pu concrétiser les nombreuses occasions de but que nous avons créées. Et voilà, une situation de jeu qui amène un but adverse qui n'était pas un but construit, ni un but espéré, mais désespérément, voilà, une petite erreur défensive et individuelle, voilà, ça nous coûte un but. Et c'est ça aussi le football.
Dans le dernier match de ses huitièmes de finale, la Tunisie a décroché son billet pour les quarts en écartant le Ghana au tir au but avec 5 tirs réussis contre 4. Après un score de 1 but partout à l'issue des prolongations, les Tunisiens ont ouvert le score par Taha Kenessi à la 73e, mais ils ont marqué contre leur camp par Rami Bédoui dans le temps additionnel. Depuis Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué passe en revue les oppositions des quarts de finale. C'est le coup de sifflet.
Bonjour, ça y est. Le casting et les combinaisons des quarts de finale de cette 32e édition de la CAN sont connus. Et on y retrouve un peu de... À côté des irréductibles écureuils du Bénin et Zébu malgaches, se trouve le revenant sud-africain, les solides formations du Sénégal et du Nigeria, ainsi que les brillants Fenecs d'Algérie, auxquels se sont ajoutés deux anciens vainqueurs, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. La présence de 5 anciens champions d'Afrique, d'un favori annoncé, et de 2 troubles faits invaincus depuis le début de la compétition, rend légitime un casting malgré tout inattendu, ce qui témoigne de la vitalité actuelle d'un football africain en perpétuel renouvellement, ainsi qu'un nivellement de valeurs simulateurs. Quant aux combinaisons des quarts de finale, elles font apparaître 2 classiques manifestement relevés avec les rencontres Nigeria-Afrique du Sud et Algérie-Côte d'Ivoire. À côté de ces affiches, les matchs Sénégal-Bénin et Madagascar-Tunisie, moins attractifs, se présentent pourtant comme des matchs pièges pour les équipes les plus huppées, au vu de la physionomie de la compétition depuis le 21 juin. Au moment où commencent ce mercredi les rencontres décisives du quart de finale, va-t-on assister à une remise en main des grosses équipes à la faveur de la combinaison des 3 facteurs que sont l'amélioration de leur production collective, l'expérience et la richesse relative du banc, ou alors les petits poussets, galvanisés par leurs exploits et jouant sans pression, vont-ils s'inspirer des exemples de l'Ouganda en 78 et de la Libye en 82, qui comptent toute attente jouer la finale, se payant même le luxe d'avoir le meilleur buteur pour l'un et de concéder pour l'autre une défaite après la séance de tirs au but. Au prix d'équité, au vu des erreurs d'arbitrage lourdes de conséquences qui se multiplient, vivement que la VAR annoncée s'invite, et que le carré d'as qui sortira de ces quarts de finale prépare le sacre d'un champion incontesté. À bientôt.
Toujours dans l'actualité de la CAN, la Tanzanie, dont la sélection a perdu tous ses matchs lors de la phase de groupe, s'est séparée de son entraîneur Emmanuel Amunike. Ancien international nigérien, Amunike, 48 ans, avait signé en août 2018 un contrat de 2 ans avec la fédération tanzanienne. Il avait réussi à qualifier l'équipe pour sa première CAN après 39 ans d'absence. Mais pour son retour, la Tanzanie a perdu ses 3 matchs de poule contre l'Algérie, le Sénégal et le voisin Kenya. C'est tout pour le journal de la CAN.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. La Cour pénale internationale a reconnu hier Bosco Ntaganda, l'un des seigneurs de guerre de la province de l'Ituri, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Eddy Issango a joint à Kinshasa le secrétaire général adjoint de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme pour l'Afrique, Paul Sapou.
La première question, voilà, reconnaître la culpabilité de Bosco Ntaganda. Une autre maintenant, c'est d'organiser, proprement parlant, le procès en question. Et là, ça va prendre le temps. Et le temps de la justice peut être élastique, mais au moins, si les parties jouent leur rôle, surtout la défense, les victimes et tout ça, et les parties civiles, là, on pourrait avancer. Mais ça va prendre le temps.
Qui doivent alors attendre les victimes? Parce que la procédure semble encore longue.
Les victimes doivent s'attendre à des jours, des avocats des uns et des autres, ainsi que les interventions du procureur. Mais ce qui est plus important, c'est le fait que ces victimes, à travers leurs avocats, doivent s'organiser de sorte que toutes les matières qui leur seront présentées par les juges aient la possibilité d'être examinées et vérifiées par toutes les parties. Et donc, renvoyer quelqu'un en justice, c'est tout simplement demander la fixation de l'affaire au niveau de la Cour, et la Cour pourra alors se lancer dans une série de procès, d'audiences, qui vont prendre beaucoup de temps. Si le temps qu'il faut pour ces procès peut être élastique à la Cour pénale internationale, c'est en termes d'années. Donc il faut s'attendre encore à quelques années pour aboutir au verdict de cette affaire.
Quel impact peut avoir ces procès par rapport à la situation des Lituri qui connaît un certain regain? Les affrontements reprennent entre ethnies.
C'est pour... Et à la Cour pénale internationale contre Bosco Ntaganda, alors que l'Ituri réouvre ses plaies, doit servir d'exemple pour tout seigneur de guerre ou toute personne qui pense qu'il peut encore endeuiller le peuple congolais. Voilà pourquoi nous, de la société civile congolaise en général et défenseurs des droits de l'homme congolais et à travers le monde, nous lançons un vibrant appel pour essayer de dire qu'il n'y aura pas d'impunité. Il n'y aura pas d'impunité et il y aura encore des poursuites judiciaires pour tout celui qui sera cité dans la perpétration des crimes contre l'humanité. Et donc que c'est des leaders de certaines communautés qui pensent qu'ils peuvent encore s'entre-déchirer, s'entre-tuer, sachent que la justice est là, la justice pénale nationale, internationale pourra un jour saisir et les poursuivre.
Paul Sapou, secrétaire général adjoint de la FIDH pour l'Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Les réfugiés centrafricains au Cameroun sont toujours réticents à l'idée de retourner chez eux, disant ne pas se sentir suffisamment en sécurité malgré l'accord de paix conclu en février dernier. Mais après des mois de négociations avec le Cameroun et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, 285 000 de ces réfugiés ont accepté de rentrer. De Yaoundé, reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Eric Manirakiza.
Florence Yaoundé a 49 ans. Elle a perdu son mari dans la ville de Mingala, en Centrafrique, pris entre les feux rebelles et des troupes gouvernementales il y a 4 ans. Florence a choisi le Cameroun comme terre d'exil pour sa sécurité.
J'ai les diplômes, mais je ne peux pas travailler. Quand je pars chercher le travail quelque part, là, personne ne peut me prendre. Donc, c'est la guerre dans mon pays d'origine, la RCA. Les enfants ne pourraient pas vivre du coup. On dépend des gens. La seule chose que je peux faire et que j'ai appris étant au pays, c'est de faire le COSAM.
La Centrafrique est secouée par des violences depuis 2013. Les rebelles de la SEDECA, principalement musulmanes, ont renversé le président François Bozizé, provoquant des représailles de la part de milices principalement chrétiennes. En février dernier, le gouvernement a conclu un accord de paix avec 14 groupes armés à l'issue de pourparlers soutenus par l'Union africaine à Khartoum. Cet accord est censé ouvrir la voie à la stabilité et déboucher sur un accord
accord entre Bangui, Yaoundé et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en vue de faciliter le retour des Centrafricains réfugiés au Cameroun. Mais seuls 6 000 ont jusqu'à présent accepté de retourner chez eux. La plupart d'entre eux, comme Yaoundé, refusent de retourner en Centrafrique, invoquant les craintes de violence dans certaines régions du pays. La ministre de l'Action humanitaire et de la Réconciliation, Viviane Baikoua, les exhorte tout de même à rentrer. La RCA a besoin de tous ses citoyens pour aider à développer leur communauté et la nation entière, assure-t-elle.
Ce qu'il faut retenir, c'est que nos compatriotes, ceux qui veulent rentrer, vont rentrer dans la dignité. On va respecter les conditions de retour exigées par les conventions signées par la République centrafricaine.
De son côté, Bouti Kalé, représentant du HCR en Centrafrique, affirme que les violences ont baissé dans les zones ouest et sud-ouest de ce pays, particulièrement depuis la signature de l'accord de paix.
One would not say everything is perfect.
Je ne dirais pas que tout est parfait, mais je dirais que pour tous ceux qui souhaitent rentrer, il y a des chances qu'ils soient bien réinsérés dans leur région d'origine.
Mais plusieurs groupes armés ont rejeté le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra, car seuls 6 des 14 groupes armés ayant signé l'accord de paix en sont membres. Les sceptiques doutent de l'efficacité de cet accord, rappelant ceux de 2014, 2015 et 2017 qui sont rapidement tombé à l'eau. L'ONU affirmait que plus de 600 000 Centrafricains sont toujours réfugiés dans les pays voisins, tandis que plus de 650 000 sont des déplacés internes.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, la Chine a fait un don de 2 millions de dollars pour le retour des populations dans le pool. Dans le district de Mayama, le fief du pasteur Ntumi, les paysans ont opté pour l'élevage de poissons pour assurer leur sécurité alimentaire, car la malnutrition est toujours présente dans le pool. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Mayama, fief du pasteur Ntumi, avait été la cible des bombardements de la police. Aujourd'hui, les populations peuvent témoigner du retour de la paix.
C'est une vie qui renaît. C'est ça, il faudrait que nous redémarrons déjà. On sent quand même une paix, hein, on n'est pas embêté. Mais ce qui nous embête beaucoup, c'est la famine maintenant. Voilà.
Donc, vraiment quoi ? C'est Tango et Tozafoua.
C'est sans ces conflits armés qui nous retardent. Nous avons tout perdu, les moutons, les bœufs et la volaille. Mais avec ce travail, tout cela va être oublié. La guerre passée, il faut se relever et travailler. Une quinzaine de groupements préparent quelques 85 étangs de poissons. Leurs attentes sont inimaginables. Un chef de groupement piscicole.
Mais en ce moment précis, nous voulons plutôt que cela change. Parce que s'il y a l'abondance de poissons, hein, c'est ça notre projet. Il faudrait les évacuer. On ne peut pas les amener avec une brouette jusqu'à Brazzaville. On nous prétend amener le Congo Yassika. Plus souvent, on met les tilapias. Mais entre-temps, nous voulons aussi mettre des silures. Et puis, les carpes.
Sur le terrain, c'est une ONG, Abdra, qui aide les paysans à bien préparer les étangs dont la mise en eau est attendue dans 2 semaines. Daouda, responsable Abdra Congo.
S'ils arrivent on arrive à réhabiliter et qu'ils arrivent à produire, ça ferait une production à peu près de 22 tonnes tous les 6 mois pour le district de Mayama. Le travail donc consiste, vous savez, avec le conflit, donc les étangs avaient été abandonnés, donc complètement envahis par l'herbe, à balayer à la machette, donc à ouvrir et rendre les sites propres.
C'est le Programme alimentaire mondial qui assure tout ce travail de retour à la sécurité alimentaire dans le pool. Jean-Martin Bohin, représentant du PAM, peut encore s'inquiéter de quelques cas de malnutrition dans le pool.
La malnutrition continue malheureusement d'affecter la population ici au pool. On estime qu'un enfant sur 10 est toujours malnutri. Et tout ça, ce sont les séquelles des problèmes, donc l'abandon de l'outil productif, le retour des gens dans des conditions très difficiles. Et donc, il faut les appuyer. Ce qui s'est passé entre 2016 et 2018 a beaucoup affecté les moyens d'existence des gens.
2 millions de dollars, c'est la contribution de la Chine à l'aboutissement de ce projet. Et l'ambassadeur Mafouline s'est lui-même rendu à Mayama pour constater.
Constat est tout à fait optimiste. Donc, je crois que on a déjà surtout cet esprit qui est retourné. Ce sera une nouvelle vie, une belle vie.
La récolte des premiers poissons est prévue pour janvier 2020. De retour de Mayama, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a demandé il y a 2 semaines aux démocrates de remédier aux lacunes des lois sur l'asile. Dans le cas contraire, M. Trump avait fait savoir que les autorités fédérales expulseraient des millions d'immigrés sans papier. Depuis, les communautés d'immigrants protestent, mais certains Américains estiment que ces expulsions auraient dû avoir lieu il y a longtemps. Reportage de Schuller Ogden, repris ici par Morgan Guériac.
Devant les services d'immigration de Fairfax en Virginie, des défenseurs des droits des migrants demandent qu'on arrête de les pourchasser. Ils scandent « sans papier, sans peur » et font partie d'un groupe de militants, d'immigrés et de défenseurs des droits de l'homme. Ils ont été galvanisés suite à un tweet du président Trump le 17 juin, menaçant d'expulser des millions de sans-papiers, à moins que les démocrates du Congrès ne corrigent les lacunes des lois d'asile aux États-Unis. Il leur a donné un délai de 2 semaines. Sarah Pierce travaille pour l'Institut de politique migratoire.
La plupart des immigrants appréhendés à la frontière sud qui ne sont pas autorisés à entrer dans le pays peuvent être rapidement expulsés, mais s'ils présentent une demande d'asile, le processus prend beaucoup plus de temps. Nombre d'entre eux sont ensuite autorisés à entrer aux États-Unis alors qu'ils demandent l'asile. Donc, dans l'esprit du président, c'est une faille dans notre système de sécurité car il permet aux gens d'entrer dans le pays.
Ce n'est pas la première fois que le président Trump menace de procéder à des expulsions massives. Peu de temps après son investiture, en janvier 2017, il avait annoncé qu'il ferait partir 3 millions d'immigrés sans papier et ayant un casier judiciaire. Cela n'est jamais arrivé, mais la menace plane, explique Andrea Molina, une manifestante.
C'est très traumatisant. C'est quelque chose que nous, les immigrés, ressentons dans nos os et dans notre sang. Chaque fois que nous voyons les nouvelles, nous savons que les politiques nous visent. C'est une société de suprémacistes blancs et un gouvernement raciste. Donc, cela nous vise. Pas seulement les Salvadoriens, mais les gens de couleur, les Noirs.
Néanmoins, certains Américains, tels que William Green, président de l'Association Américain pour l'immigration légale, pensent que les expulsions auraient dû avoir lieu il y a longtemps.
Nous ne sommes pas protégés contre l'invasion. J'ai le droit de souhaiter que les lois en vigueur aux États-Unis, qui exigent que tous les immigrants clandestins soient renvoyés dans leur pays d'origine, soient appliquées. Cela ne se produit pas. J'ai le droit de vouloir que les lois qui empêchent les employeurs d'embaucher des immigrants illégaux soient appliquées. Cela ne se produit pas.
Les services d'immigration refusent de donner des détails sur les opérations à venir ou de s'exprimer devant les caméras. Mais dans une déclaration écrite, ils ont fait savoir que puisqu'aucun citoyen américain ne peut enfreindre la loi en toute impunité, il en allait de même pour les étrangers illégaux. Bien que le Congrès ait adopté une enveloppe d'aide humanitaire de 4,6 milliards de dollars avant de partir en vacances, il n'a pas encore adopté de texte sur l'asile. À l'approche de la fin du délai de 2 semaines donné par le président Trump, les sans-papiers des États-Unis sont dans l'incertitude.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Charleston Mock. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.